Crédit Express, le prêt à la consommation de Banque Atlantique pour financer vos besoins ponctuels de trésorerie ou d'équipement vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Jean-François Cadet.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Appel sur l'actualité. Aujourd'hui c'est vendredi, jour de libre antenne comme vous le savez. N'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos réactions à l'actualité. On vient d'entendre le numéro mais je vous rappelle quand même 33 9 693 693 70. Vendredi, c'est aussi le jour de la chronique de Jessica Taïeb, un œil sur les réseaux. Aujourd'hui elle nous parlera du sujet qui agite les réseaux sociaux au Mali, les nouvelles taxes téléphoniques. Mais pour commencer, comme tous les jours, vos questions et les réponses à vos interrogations sur l'actualité, avec pour commencer Yosounon, bonjour.
Bonjour Jean-François Cadet, bonjour à Raphaël, Margot et Chloé.
Eh ben, c'est gentil de saluer l'équipe d'Appel sur l'actualité. Vous êtes Yosounon en ligne de Parakou au Bénin et vous vous interrogez sur la situation très préoccupante en ce moment au Soudan du Sud. Quelle est votre question?
Absolument. Au Soudan du Sud, les tensions sont au plus haut niveau entre le président et son vice-président. Ma première question, sait-on ce qui a provoqué cette tension?
Alors pour répondre, nous sommes en ligne avec Florence Mieto, la correspondante de RFI à Juba. Bonjour.
Bonjour.
On peut revenir avec vous, Florence, sur la genèse de ce conflit, justement, entre le président et son vice-président?
Il y a d'abord et avant tout une stagnation dans la mise en œuvre de l'accord de paix. Même si les dirigeants réitèrent leur engagement à appliquer cet accord, la société civile et l'ONU ont dénoncé à plusieurs reprises le manque de volonté politique du président Salva Kiir et de son vice-président, l'opposant Riek Machar. Depuis la signature de l'accord en 2018, la période de transition a été prolongée à 4 reprises. Pourquoi ? Parce que les chapitres de l'accord de paix ne sont pas appliqués de façon suffisante pour permettre des élections dans des conditions acceptables. Ce scrutin est maintenant prévu pour décembre 2026, mais sa tenue reste très incertaine.
Mais alors quelles sont, Florence, les mesures phares de cet accord de paix qui tarde à voir le jour ?
Parmi les mesures essentielles pour que des élections soient possibles, il y a la rédaction de la constitution permanente du pays. La constitution doit définir quel type de gouvernement, quelles institutions vont diriger le Soudan du Sud à l'avenir. Il doit aussi y avoir une unification des forces armées, du gouvernement et de l'opposition, ces forces qui se sont combattues de 2013 à 2018. Il s'agit donc de créer une armée nationale, car l'armée s'est fracturée sur des bases partisanes et ethnique en 2013, lorsque la guerre a éclaté entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar.
Ça veut dire qu'en presque 7 ans, l'accord de paix n'a pas du tout avancé ?
Alors, il y a eu des progrès, notamment la formation du gouvernement d'unité et de transition actuel qui réunit Salva Kiir et Riek Machar, ainsi que d'autres composantes de l'opposition. Il y a aussi eu quelques avancées vers une unification des forces armées, mais les 20 000 soldats qui ont terminé leur entraînement pour en faire partie ne sont pas opérationnels, ils ne sont pas armés et ne sont pas déployés dans les zones de conflit, dans ces zones où justement les tensions repartent à la hausse ces dernières semaines. Entre troupes gouvernementales et troupes de l'opposition, des tensions qui nous ont menés à la situation actuelle.
Et c'est donc un conflit régional dans l'état du Haut-Nil, au nord-est du pays, et qui a provoqué une montée de tensions à Juba entre Salva Kiir et Riek Machar. Des membres de l'opposition ont d'ailleurs été arrêtés, Florence, on sait pourquoi ?
Alors, les tensions à Nassir ont en effet pris une dimension nationale. Contrairement aux autres incidents assez similaires rapportés par l'ONU depuis le début de l'année dans d'autres endroits du pays. À Nassir, l'armée gouvernementale a subi une lourde défaite face à la White Army, cette milice de jeunes nuer qui a des liens avec le mouvement de Riek Machar. Le camp du président Salva Kiir accuse justement le vice-président d'avoir orchestré ces attaques lors desquelles le gouvernement a perdu le contrôle d'une base militaire. Le général commandant cette base est ensuite mort lors de son évacuation par l'ONU et un employé des Nations Unies a également perdu la vie, c'était le 7 mars. Tout cela fait peser un risque inédit sur l'accord de paix.
Et justement, Yosounon, vous vous interrogez, je crois aussi, sur l'avenir de cet accord de paix.
Oui, Jean-François. Est-ce que l'accord de paix de 2018 peut être remis en cause?
C'est un vrai risque, Florence ?
Si les appels au calme se multiplient, de la part notamment des églises, des organisations de la société civile, des pays de la région, c'est bien que le risque de retomber dans la guerre civile est réel. Certaines sources considèrent même que nous sommes déjà en état de guerre, étant donné la violence des combats, le nombre de blessés et de morts qui se compte en centaines, ou encore l'usage de bombardements aériens. Une nouvelle guerre civile sud-soudanaise serait évidemment un désastre pour les Sud-Soudanais qui vivent déjà une immense crise humanitaire. Les salaires des fonctionnaires n'ont pas été payés depuis 13 mois. La Banque mondiale estime que 92% des 11 millions de Sud-Soudanais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Un nouveau conflit aurait aussi des répercussions régionales. Certains analystes considèrent que la guerre au Soudan pourrait fusionner avec le conflit sud-soudanais si les parties qui s'affrontent au Soudan s'allient avec celles qui sont en conflit au Soudan du Sud. L'armée ougandaise a en outre annoncé avoir envoyer des forces au Soudan du Sud pour protéger le gouvernement de Salva Kiir. Même si Djouba a tenté de rassurer, niant la présence de troupes ougandaises, l'annonce fait craindre une intensification du conflit.
Florence Métiot, en direct de Djouba sur RFI, merci d'avoir répondu à Yosounon. Et merci à vous, Yosounon, bien sûr, pour votre question. J'espère qu'on y a répondu. Bonne journée à Parakou, au Bénin. En ligne avec nous à présent, Messi Fidèle, bonjour.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Vous êtes en ligne de Lubumbashi, au sud-est de la République démocratique du Congo. Et vous nous interrogez sur la Syrie et sur cet accord qui a été trouvé entre les nouvelles autorités syriennes et la communauté kurde du nord-est du pays. Quelle est votre question ?
C'est bien ça Jean-François. Je disais, en Syrie, un accord a été trouvé entre les nouvelles autorités et la communauté kurde du nord-est du pays. Alors à ce sujet, quel rôle exact joueront les institutions autonomes kurdes dans les nouvelles États syriens ? C'est ma première question.
Alors, Asni Abidi est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez Asni Abidi, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Quelle réponse peut-on apporter à Messi Fidèle ?
Alors, c'est une question importante parce qu'elle a fait l'objet de plusieurs négociations entre les nouvelles autorités dirigées par le président intérimaire, M. Ahmed al-Sharaa, et le chef des forces démocratiques syriennes, FDS, dirigé par leur chef historique, M. Mazloum Abdi. Pourquoi plusieurs négociations ? Parce que les Kurdes voulaient absolument une solution individuelle des membres du FDS au sein de la nouvelle armée, alors que les nouvelles autorités voulaient absolument à ce que les FDS, c'est-à-dire les forces démocratiques syriennes, qu'il faut rappeler est une coalition de plusieurs groupes militaires, annonce en quelque sorte son autodissolution ou intègre la nouvelle armée syrienne en construction. Et du coup, c'est la nouvelle armée, donc les nouvelles autorités, qui vont contrôler à la fois toutes les forces militaires, le territoire kurde, donc au nord-est, mais aussi, et ça c'est important, les ressources que regorge cette partie de la Syrie.
Application de l'accord prévu d'ici la fin de l'année. Vous aviez eu une autre question, Messi Fidèle.
Une Syrienne tire-t-il de cette intégration ?
Voilà, quel intérêt, je complète le début de la question parce qu'on ne vous a pas entendu, quel intérêt le régime syrien tire-t-il de cette intégration, Asni Abidi ?
Oh, il est le premier vainqueur de cette alliance, ou disons que cet accord qui, il faut le rappeler, était historique, parce que la région a connu plusieurs tensions, plusieurs conflits directs. L'intérêt, c'est d'abord cet accord intervient dans un contexte très tendu. Rappelez-vous les événements justement de l'attaqué et de toute cette région de l'Ouest, où il y a plus de 1000 morts du côté alaouite, ce qui a affaibli, ce qui a considéré comme une véritable épreuve par les nouvelles autorités. Donc, signer un accord avec les Kurdes est un point positif pour les nouvelles autorités. Cet accord intervient aussi après un autre événement important au capital. Pour, disons, les Kurdes de toute cette région, c'est l'annonce faite par Abdallah Öcalan, le chef historique de PKK kurde, qui demande à son parti, à toutes les associations et organisations affiliées, de s'autodissoudre. Et donc, il était très difficile pour l'FDS de rester sourd à cet appel. Enfin, il faut rappeler que les Américains ont joué un rôle important de convaincre finalement les forces démocratiques syriennes de reprendre langue avec les nouvelles autorités. Du coup, Ahmed al-Sharr apparaît comme l'homme qui a réussi en quelque sorte de fédérer une partie importante de la composante syrienne qui sont les Kurdes.
Et est-ce que ça veut dire que cet accord à Stiabidi signifie la fin des opérations turques sur le territoire syrien ?
Une très bonne question, même avec les autorités syriennes, ce n'est pas encore gagné. Pourquoi ? Parce que nous n'avons toujours pas encore quel est le mécanisme qui va être suivi par les nouvelles autorités, par les FDS, pour justement que cette armée syrienne, qui n'a pas encore vu le jour, puisse étendre son autorité sur le nord. Est. Ça, c'est la première question. La deuxième, pour la Turquie, c'est une autre affaire, parce que la Turquie considère finalement les FDS comme une branche syrienne de PKK, considérée depuis plusieurs décennies comme une organisation terroriste et qui, pour la Turquie, n'a plus de raison d'être. Et c'est pourquoi la Turquie a demandé à tous les Kurdes étrangers qui n'ont pas syrien de quitter le territoire syrien. En quelque sorte, la Turquie veut dire que j'applaudis cet accord, mais je ne suis pas du tout concerné par une cessation des hostilités. Il faut que les Kurdes finalement comprennent et cet accord et finalement cessent toute hostilité à la Turquie.
Merci beaucoup Hesni Abidi pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous dirigez le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Merci également à vous Messi Fidel. Très bonne journée chez vous à Lubumbashi. On va à présent tourner le regard et les oreilles vers l'Amérique du Nord avec vous. Christ, bonjour.
Bonjour, monsieur François Cadet.
Vous nous appelez de Brazzaville et vous avez une question sur la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada.
Effectivement. Après avoir à nouveau menacé le Canada d'augmenter les taxes douanières, Donald Trump a finalement renoncé à ses sanctions quelques heures après. Alors, pourquoi le président américain a-t-il fait volte-face ?
Pour vous répondre, Pierre-Alexandre Bellier est également en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Grenoble-Alpes, spécialiste en civilisation nord-américaine. Alors c'est vrai que ça peut mériter quelques explications. Pourquoi Trump a changé d'avis ?
Alors pour être honnête, c'est toujours difficile de dire ce qui se passe dans la tête du président américain tant il est imprévisible. Par ailleurs, la Maison-Blanche n'a pas vraiment donné de raison officielle pour expliquer ce revirement de situation concernant les droits de douane. Ce qui semble le plus probable, c'est qu'il a été influencé par les indicateurs économiques, notamment les indices boursiers qui ont clôturé avec une baisse significative après l'annonce des droits de douane la semaine dernière et encore cette semaine lorsqu'il a annoncé les droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Il aurait également cédé à la pression de certains membres du Parti républicain, notamment des membres du Congrès, puisque certains de leurs électeurs craignent l'impact négatif que ces droits de douane auraient, notamment en matière d'agriculture ou d'industrie. On peut mentionner une troisième raison. La menace de l'Ontario de surtaxer l'électricité exportée aux États-Unis à hauteur de 25%, qui a probablement joué un rôle important et qui a ouvert une porte de négociation. Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, ont discuté lundi et se sont rencontrés hier pour trouver un terrain d'entente dans cette guerre commerciale. Et apparemment, cela aurait permis une conversation productive qui aurait pu faire baisser la température entre les deux pays, pour citer Doug Ford. Je voudrais également insister sur le fait que le Canada et les États-Unis sont vraiment très interdépendants. Ils partagent la plus importante relation commerciale au monde. Certaines chaînes d'approvisionnement sont intégrées à travers la frontière Canada-États-Unis. C'est le cas, par exemple, de l'industrie automobile. Ils construisent les automobiles ensemble. Une voiture traverse la frontière Canada-États-Unis environ 8 fois dans son processus de fabrication. Et donc, des droits de douane sur cette industrie aurait vraiment des répercussions très très importantes, puisque une voiture serait taxée plus d'une fois lors de son processus de fabrication.
Alors il se trouve que le nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, prend officiellement ses fonctions aujourd'hui. Vous aviez une autre question justement à ce sujet, Christ.
Oui, le nouveau Premier ministre canadien avait promis une riposte. Sur quel aspect économique et commercial pourrait-il contre-attaquer ?
Pierre-Alexandre Bellier.
Oui, alors tout d'abord, je tiens
rapidement
à souligner... Comment ?
Rapidement, allez-y, je vous en prie.
Le Premier ministre, le nouveau Premier ministre canadien a un doctorat en économie, donc il est beaucoup plus expert que Trump en la matière. Mmh. C'est aussi quelqu'un qui connaît les crises. Il a dû gérer la grande récession de 2008-2009, le Brexit, la pandémie de Covid-19 lorsqu'il était gouverneur de la Banque d'Angleterre. Il connaît ces sujets Et dans son discours de victoire dimanche, il a annoncé qu'en matière de commerce comme en hockey, le Canada va gagner. Donc pour en revenir à la riposte canadienne, en raison de la forte interdépendance que je mentionnais tout à l'heure, le levier le plus facile, ce sont les droits de douane. Il a déjà annoncé une deuxième salve de droits de douane sur plus d'une soixantaine de produits du quotidien, les articles sanitaires ou des fournitures de bureaux. Cela peut être un levier efficace dans la mesure où 36 États américains ont le Canada comme premier marché d'exportation. Un autre levier, mais qui, lui, est entre les mains des provinces, ce serait le naturel et l'énergie. On a déjà parlé de l'électricité, mais il y a également le pétrole, puisque le Canada représente entre 50 et 60% du pétrole importé aux États-Unis. Toutefois, l'Alberta, qui est la province productrice de pétrole, n'est pas vraiment favorable à cette stratégie.
Réponse courte et très précise en même temps. Merci beaucoup Pierre-Alexandre Bélier. Merci à vous Christé. Très bonne journée évidemment au Congo, notamment du côté de Brazzaville. Comme chaque semaine, on revient à présent avec Jessica Taïeb sur un sujet qui a fait réagir les internautes. C'est la chronique Un œil sur les réseaux. Bonjour Jessica.
Bonjour.
Et ce matin, vous nous parlez d'un sujet qui a suscité énormément de réactions au Mali, les nouvelles taxes téléphoniques.
10% sur l'achat de crédits téléphoniques, 1% sur les services de transactions mobile monnaie. Ces mesures fiscales sont entrées en vigueur le 5 mars dernier. Elles suscitent depuis la polémique sur les réseaux sociaux, des milliers de commentaires sur Facebook, X et TikTok. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs ? Eh bien, par exemple, si vous achetez 1000 francs CFA de crédit pour votre téléphone, 100 francs vous seront retirés automatiquement et cet argent récupéré des transactions doit servir à financer un fonds de soutien spécial pour des projets de développement, notamment dans le domaine de l'énergie, un fonds qui est sous l'autorité directe de la présidence malienne et dont les modalités de gestion ont été précisées dans un décret jeudi dernier.
Et la gestion de ce fonds éveille les soupçons de certains économistes maliens. Ils en dénoncent l'opacité. RFI en parlait d'ailleurs il y a quelques jours dans un article de David Bachet sur le site internet de RFI. Je vous invite évidemment à le lire. Mais les taxes en elles-mêmes, Jessica, sont également très critiquées sur les réseaux sociaux.
Ouais, il faut dire que les recharges téléphoniques et les transferts d'argent sont au cœur du quotidien de nombreux Maliens. Je vous lis quelques commentaires lus sur X et sur Facebook. Je cite « Il faut annuler les taxes, c'est une obligation. La contribution à ce fonds de soutien doit être volontaire. » On continue avec cet internaute très en colère. « Taxer les transactions mobile monnaie, c'est taxer la survie des Maliens. Pendant que le peuple meurt dans l'insécurité et la misère, les militaires s'enrichissent. C'est du racket pur et simple. » Et celui-ci qui temporise. Les Maliens ne sont pas contre les taxes. Ils réclament juste une large consultation avant la prise de décision, une plus grande transparence et un fonds qui ne vienne pas augmenter le train de vie de l'État. Et sur TikTok, de nombreux utilisateurs se sont filmés face caméra pour expliquer pourquoi ils étaient contre ces nouvelles mesures.
Et les associations de défense des consommateurs sont-elles aussi montées au créneau ? Bien sûr, de leur côté, les partis politiques maliens Yelema et le M5-RFP Malikoura demande dans un communiqué conjoint l'abrogation pure et simple de ces taxes. Mais Jessica, la question divise quand même. Il n'y a pas que de l'indignation dans les commentaires que vous avez pu remarquer.
Et oui, comme souvent sur les réseaux sociaux, les internautes sont loin de partager le même avis. Et il y a aussi de nombreux Maliens qui défendent ces nouvelles taxes. Je vous partage quelques réactions qui vont dans ce sens. Pour un Mali développé, souverain et prospère, payons nos taxes, acceptons de faire des sacrifices pour ce beau pays. Celui-ci qui se pose une question. Pourquoi tant de bruit sur les nouvelles taxes ? Les Maliens doivent être fiers de contribuer directement à la reconstruction de leur nation. Et je termine avec cet internaute plutôt optimiste. Nous accueillons ces taxes à bras ouverts, la liberté a un prix.
Voilà, il y a encore beaucoup de commentaires à lire, mais le temps nous manque et celui-ci fera, j'imagine, réagir pas mal d'auditeurs et d'auditrices de RFI. D'ailleurs, on aura sans doute l'occasion de reparler de ce sujet. D'ailleurs, si vous avez envie de nous interpeller sur ces taxes au Mali, rendez-vous pour la libre antenne après le journal. N'hésitez pas à nous appeler avec ou sans surtaxe 339 693 693 70 ou à nous joindre via notre application WhatsApp. Certains d'entre vous ont notamment souhaité parler de l'AES et de la CDAO, du processus électoral au Gabon ou de l'alliance de l'opposition en Côte d'Ivoire dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Rendez-vous donc tout de suite, juste après le journal.